peux dire que la maison est située quelque part dans les bois de Brest. Mmh. Et à gauche de la maison, en sortant de la porte, il y a une voie ferrée qui passe. Et la maison a une forme, je ne sais pas trop, rectangulaire ou bien un truc, d'un petit château. D'une... Elle est constituée d'un étage au-dessus, de trois chambres habitées, une salle de douche, un WC, une cuisine avec une table à manger pour peut-être 8 à 10 personnes, et un garage qui nous sert aussi d'atelier, une grande cour qu'on peut souvent se détendre, on se joue le ballon, on fait les trucs. Et une forêt, un parc aux alentours pour souvent courir, où les voisins aussi viennent balader les chiens et comme ça.
Je m'appelle Nguntia Rodrigue Pegui. Et du coup, ça n'a pas été facile pour moi depuis mon départ du Cameroun jusqu'ici. Au Cameroun, déjà, j'étais sans abri. Je vivais dans la rue. Donc, du coup, j'ai grandi comme ça dans la rue. C'est comme ça qu'on a rencontré le grand frère là. Parce que lui, il était déjà arrivé jusqu'au Maroc avant de rentrer au Cameroun. Et puis, il nous a expliqué. Il a dit lui aussi qu'il devait rentrer. Il devait rentrer encore en aventure, il devait refaire l'aventure. C'est comme ça que nous, on s'est accrochés derrière lui. Le moment est arrivé, nous, on s'est engagés comme ça, on a pris la route ensemble avec lui, mon ami et moi. On est passé par beaucoup de pays que, du coup, moi-même, je ne connaissais pas. C'était difficile, c'était très dangereux. Les conditions étaient vraiment difficiles au cours du voyage. Et nous sommes passés par le Nigeria. Arrivés au Nigeria, certains policiers nous ont mis en cellule parce qu'ils nous ont demandé où nous venions. On a dit que nous venions du Cameroun. Et puis, ils nous ont dit oui, non, pas où. On a dit non, nous sommes en train d'aller en Algérie. Et puis, ils ont dit non, ce n'est pas autorisé, ils vont nous faire rentrer dans notre pays. On a fait presque une semaine en cellule. Après, ils nous ont libérés. Ils nous ont libérés dans la rue comme ça. On a subi beaucoup de choses là-bas. On nous a abandonnés, même les gens qui nous ont pris pour nous faire passer au désert, ils nous ont abandonnés en plein désert. J'ai vu des gens mourir au désert. C'était très difficile. Moi-même, je ne croyais pas que je pouvais arriver. Les gens n'avaient pas à manger, même l'eau à boire qu'on avait pris quand on traversait le désert, c'était à un niveau, on n'avait plus d'eau à boire. Il y a beaucoup de gens que moi, je ne sais pas si ils ont pu traverser ou pas. Et en Algérie, dans la première ville où nous sommes entrés, là-bas, on n'avait plus d'argent et le grand. Il nous a abandonné là-bas, il nous a dit nous sommes déjà arrivés là-haut. Lui, je ne sais pas, on ne le s'est plus vu. On restait là-bas pour attendre que les gens ils viennent nous prendre pour nous amener, faire des travaux comme ça, là, pour que aussi on doit avoir un peu de moyens. On avait aussi raconté des amis là-bas qui nous disaient que c'est possible de continuer l'aventure, qu'on peut arriver au Maroc et pas le Maroc, on peut entrer en Europe parce que. Au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait les gens qui nous faisaient croire qu'on pouvait aussi arriver en Europe, toujours en continuant comme ça. Au Maroc, ça n'a pas été aussi facile, c'était la même chose. c'est difficile de vivre là-bas, les conditions sont très difficiles, ils ne nous acceptent pas, il y a beaucoup de différences. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire parce qu'on a la peau noire et les conditions de vie là-bas, très très difficiles. Donc, bon, mon ami aussi, un jour lui m'a dit qu'il va aller dans une autre ville. Il a trouvé un grand frère là-bas qui fait traverser les gens par les convois, les zodiacs. Et c'est comme ça. Et il m'a dit, lui, il essaie de chercher les gens pour aider le frère, là, son grand, là, à les clients, quoi. Et lui m'a dit, si c'est possible que je vienne là-bas, et puis, comme ça, on peut s'organiser ensemble, on prend un convoi pour entrer en Europe. Moi, il lui a dit, non, j'ai pas d'argent, je suis encore là, et puis, quand j'aurai l'argent, et puis, je vais te trouver là-bas. On a causé comme ça, peut-être après deux semaines, ah non, après une semaine, et il y a un autre gars qui est quitté de la ville où il était pour venir dans la ville où j'étais. Il me dit que c'est comme ça, là, il y a un gars, il y a un convoi de gars qui a chaviré à mer. C'est comme ça qu'il faisait les commentaires. Et du coup, j'ai identifié mon ami dans ses commentaires. J'ai compris que mon ami faisait partie de ce convoi-là. Et ça a été très difficile pour moi d'entendre cette nouvelle. Très, très difficile que lui, il était dans le convoi a chaviré, lui, on ne l'a plus vu. Cela m'a fait, ça m'a pris un coup, quoi. Mon rêve, même pour l'Europe, était déjà en train de partir. Je pensais déjà rentrer dans mon pays. Et j'ai vu des groupes aussi, des amis, comme j'étais déjà beaucoup ami avec eux, ils partaient en forêt. Ils m'ont dit, non, il faut venir, on part. C'est bon, ce qui est sûr, si c'est bon, tu vas entrer en Europe. Si c'est pas bon, tu vas rester au Maroc. Si c'est bon, on a beaucoup de chances pour entrer parce que là-bas, on va bien organiser. C'est comme ça, je suis parti avec eux et puis j'ai eu la chance d'entrer en Europe. Je suis entré par l'Espagne.
Lorsque je suis quitté en Italie, je suis arrivé à Brianzo, c'est la première ville où on m'a accueilli. Cela m'avait demandé, tu veux aller dans quelle ville? J'avais choisi Quimper. On m'a demandé comment tu sais qu'il y a une ville qui existe qui s'appelle Quimper. J'ai regardé sur la carte. Donc j'ai vu que Quimper, c'est une ville qui est vraiment très loin de la frontière italienne. Parce que lorsque on arrive, la police nous empêchait de rentrer en France. Et d'autres m'ont proposé d'aller en Belgique. Ils disaient, en France, il y a trop d'immigrants, il faut aller en Belgique. J'ai dit non, c'est ici que je vais venir. Et ils m'ont laissé à la frontière de retourner. Donc j'ai marché pendant une journée et demie dans les montagnes de Brianzo pour pouvoir arriver à Brianzo. Et lorsqu'on m'a demandé d'aller dans quelle ville, j'ai choisi Quimper. Tout le monde dit vraiment, c'est une ville où c'est dans une région où les gens ne sont pas rentrés, tout le monde est gentil, ils aiment vraiment les Noirs, donc c'est très bien si tu as choisi là-bas. Arrivé à Quimper, j'ai dormi dans la rue à Quimper, parce que lorsque je suis arrivé, je suis à la préfecture, ils m'ont dit il n'y a pas de place, il faut chercher une autre ville pour où aller. Ils ne savaient pas quoi faire, j'ai dormi dans la rue. Donc le lendemain, je suis retourné encore à la préfecture. La préfecture m'a envoyé au CCRS et m'ont dit donc il faut aller à Brest parce que je ne savais pas qu'il y a une ville qui s'appelle Brest. Donc c'est là que je suis arrivé ici.
Je fais partie du mouvement Zéro Personne à la rue à Brest. C'est un mouvement qui existe depuis février 2016. C'est suite en fait à un appel à se rencontrer qui avait été fait par les personnes qui étaient en demande d'asile et qui n'étaient pas logées. Et du coup, ils squattaient les couloirs de la résidence sociale dans lesquels ils auraient dû être accueillis, et dans lesquels ils n'étaient pas. Et du coup, ils vivaient dans des conditions déplorables. Même le Coalio, c'est l'organisme sur Brest qui gère, qui gère l'asile. Et du coup, ils allaient jusqu'à fermer les toilettes, les sanitaires, tout ça, leur dire tous les matins de sortir. Quand ils laissaient des affaires, ils mettaient les affaires dans le local poubelle. Bref, ils ont écrit un texte, les gens eux-mêmes, pour décrire la situation, que c'était pas acceptable. Et du coup, ils ont appelé aux gens à venir les rencontrer. Et voilà, du coup, il y a plusieurs dizaines de personnes et d'associations qui sont venues les rencontrer. Il y avait entre 50 et 100 personnes à ce rendez-vous-là. On a discuté tous ensemble et c'est là où on a décidé de mettre en place le mouvement Zéro Personne à la Rue, en fait, qui c'est un mouvement informel, mais qui consiste, c'est assez simple à décrire, c'est que quand on pense que chaque personne qui en fait la demande, quelle que soit sa situation administrative, elle doit avoir accès à un logement décent et pérenne. En France, l'hébergement est un droit. Et du coup, voilà, on est parti de ça. On a fait le tour des organismes qui ont le pouvoir de décision et de solution. On a rencontré le sous-préfet, le directeur de Qualia, un peu tout le monde. Et du coup, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de solution. Suite à ça, les gens, par leurs propres moyens, ont occupé des maisons vides. Voilà. Et du coup, c'est un enchaînement depuis. Et quelques mois après l'ouverture de ces maisons, en fait, c'est là où, parce que jusqu'à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas de souci avec les mineurs isolés. Ils étaient tous accueillis. Et du coup, à partir du printemps, il y a commencé à avoir les exclusions. Alors, il faut savoir aussi qu'on fait partie d'un réseau plus large, qui est le réseau d'accueil des migrantes et migrants dans la dignité du pays de Brest. Et dans un premier temps, en fait, c'est plus les gens de ce réseau-là qui sont occupés des mineurs, et notamment Solami, c'est notre association, voilà, qui peuvent proposer une trentaine de places dans trois appartements. Et voilà, dans le déroulé, au bout d'un moment, les appartements aussi étaient pleins, ils n'avaient plus de solution, du coup, ils sont un peu retournés vers nous. C'était à peu près à l'automne 2017. Et c'est là, on a commencé à se rencontrer, et c'était l'hébergement solidaire, mais ça tenait plus. Il y avait eu une vague d'expulsion dans les hôtels qui était trop grande. Et pareil, on a resollicité tous les organismes qui ont le pouvoir de solution et de décision. Ils nous disaient qu'il n'y en avait pas. Et du coup, un réseau associatif, là, comme ça, a occupé une maison vide, ouverte, qui appartient à Brest Métropole Habitat. Et ont invité les jeunes à venir les rejoindre. Et voilà, c'est depuis l'officialisation de l'ouverture, c'était le 15 novembre. Décembre, janvier. Ça fait 2 mois et demi maintenant. Et voilà.
On est là pour être à leur écoute. Et puis on organise déjà, quand ils sortent de l'hôtel, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de sécurité sociale, enfin, ils n'ont plus la CMU, ils n'ont plus de carte de bus. Il n'y a plus de cours de français, j'oublie une troisième chose. Donc déjà, dans un premier temps, on refait tous ces papiers-là, on dépose un recours chez un avocat, et puis après, on essaie de faire en sorte que chaque jour se passe au mieux. Donc il y a des cours qui sont donnés à la maison, il y a aussi d'autres associations qui donnent des cours. Il n'y a pas que nous qui intervenons au niveau des jeunes. Donc après, ils pourront avoir accès au sport quand ils auront leur AME, mais les choses prennent du temps à chaque fois. Et puis on est là pour d'autres projets. Il y a des projets artistiques qui se montent. Il y a des jeunes qui ont des compétences. Donc on va essayer de monter de la couture avec peut-être un défilé. On leur demande aussi ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils savent faire, et on essaie de voir ensemble est-ce qu'on arrive à monter quelque chose avec ça. Voilà. Et puis après, il y a toute la logistique, faire les démarches pour faire la pour qu'ils puissent aller chercher de l'alimentation, gérer pour l'eau, l'électricité, etc. Voilà. Et puis après, des bons moments quand même. On essaie de passer du temps ensemble en dehors de tout ce qu'il y a à faire et des choses pas très sympathiques, quoi.
Bon, chacun a son jour particulier où il part au resto du cœur chercher. Bon, il y a ce jeudi où presque 5 personnes se rendent. C'est où là?
À la halte.
Là, c'est pour un truc commun. Bon, sinon, chacun un jour de la semaine où il part au resto du cœur. Après, un jour par mois, il part au secours populaire. Et ça, quand. C'est la collection là qu'il faut qu'on se nourrit de temps à autre. À midi, le soir, on fait une cuisine pour tout le monde. sauf le PK, le petit déjeuner le matin, que chacun peut faire pour lui. Mais au fait, pour nous, chacun se défend un peu de sa façon de cuisiner. Quoi. Donc on a notre manière à nous de cuisiner. On fait aussi de déguster nos plats à certains gens qui viennent aussi. Ce qui n'est pas habituel pour nous, on demande le conseil à quelqu'un qui sait le faire. Bon, il nous montre comment faire la cuisson. La prochaine fois, on saura comment faire.
Oui, c'est une maison, en fait. Auparavant, autour, il y avait une cressonnière. Là où on fait pousser du cresson. Donc, en conséquence, il faut beaucoup d'humidité. Donc, il y a un ruisseau. Donc voilà, effectivement, c'est très très humide pour aller jouer au foot.
Et sinon, administrativement, c'est une maison qui appartient à Brest Métropole Habitat, qui normalement est mise à disposition du CCS de Brest et qui doit accueillir des personnes qui sont en difficulté de logement. Et ben, en fait, elle était vide. Quoi. Là, c'est l'hiver, quoi. C'est bien humide, c'est une zone humide et il y a beaucoup de pluie. Du coup, voilà. Pour les activités extérieures, c'est pas la meilleure période.
Le problème, c'est que bon, il n'y a pas de stade aux environs. Bon, individuellement, chacun peut aller. Après Strasbourg, là, il y a un petit stade là-bas où on joue souvent. Bon, c'est le truc qu'on fait un peu, c'est jongler le ballon, bien sauter à la corde là, ou bien courir dans le parc, parce qu'elle est un peu grande.
Qu'est-ce que vous faites le matin là? À partir du matin.
Bah, si on s'élève, on fait. On lave la maison, on nettoie tout, on s'occupe des poubelles, on fait le lave-vaisselle, tout, et on prépare à manger.
Par contre, bon, chacun a son heure qui se réveille le matin. Il y a certains qui se réveillent à 9h, certains qui se réveillent à 8h. Certains qui partent peut-être à la base suivre les, certains qui prennent les cours sur place. Bon, chacun a son heure. Et le moment où on se retrouve le plus dans la maison, c'est à partir de 20h, où il y a plus de monde dans la maison, où on se fait les blagues, on rit, chacun raconte ses petites histoires. Le maximum possible qu'on pourrait rester à table avec notre confrère Charlie qui nous tient souvent jusqu'à peut-être 23h.
Quand Charlie est là, c'est du bon, hein, c'est du bon quand Charlie est là. Ah ouais, quand Charlie est là, c'est du bon. Et puis en plus, bon, il arrive à déguster tous nos petits plats que nous faisons. Bon, voilà. 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 Non, il vient pas pour manger, mais en tout cas, il est là pour nous, je sais pas, mais en tout cas, il est là pour nous.
On va discuter notre tracé, comment on a venu ici, comment on a vécu des heures pour venir ici. C'est bon, quoi.
C'est les témoignages des jeunes très récurrents qui sont tout le temps à dire en fait que bah, ils sont en train d'essayer de débloquer leur situation administrative, mais vu que c'est quasiment totalement bloqué, c'est toujours il faut attendre un autre rendez-vous, il y a un truc qui bloque, c'est toujours attendre, et du coup pendant ce temps-là passer les journées à réfléchir déjà avant et maintenant encore bloqué, et du coup c'est de sortir de ça et de rencontrer des gens, de construire sa vie ici, quoi, tout simplement.
À la maison, on a notre propre wifi là. Bon, avec son téléphone, on peut se connecter directement ici. Là. Bon, si on sera à médiathèque, c'est juste un peu pour s'évader un peu, quoi. Pour se faire des fêtes, de racontes. C'est toujours aussi les jeux vidéo. Ça nous manque aussi. Juste avec sa carte de bus, tu peux avoir une carte médiathèque. Avec la carte médiathèque, là, tu te sers pour te connecter, pour jouer les jeux vidéo, pour faire autre chose si tu as besoin. Les capucins, on prend le téléphérique. Oui, on y va, ça. Bon, pour moi, je ne sais pas si tout le monde y va, mais moi, c'est tout le week-end que moi, je m'en vais. Bon, peut-être aussi pour un peu découvrir quelques endroits dans la ville aussi, pour qu'on sorte. Même comme, bon, selon ce que les Français disent que c'est une petite ville, mais on trouve que c'est une très grande ville pour nous.
Moi je suis enseignante, donc je me lève à 7h le matin, je check les mails, je pars au travail, j'ai deux téléphones, donc ça multiplie les appels. Donc je travaille, le téléphone sonne, je réponds au téléphone, je réponds aux mails. À midi, ben, de midi à 1h30, et ben, c'est des coups de fil. C'est essayer aussi de... Enfin, comme... on va dire que j'ai pas mal d'appels et je... j'essaie de voir avec les gens qui sont présents, qui peut faire quoi. J'essaie un peu de rebalancer les infos, de voir qui peut faire quoi quand il y a une urgence, qui peut accompagner, etc. Donc il y a des personnes ici qui prennent pas mal le relais sur la journée quand moi je suis au boulot. Prendre des rendez-vous chez les avocats. Ensuite, on t'a rejoint. Et puis après, je vais partir à la maison, j'héberge des gens. Donc on va voir aussi leur situation à eux. Et puis demain, ça recommence. Samedi, y a la journée qui est comme ça. Entre-temps, j'ai un fourgon. Donc c'est des gens qui sont dans les maisons, qui ont besoin de matelas, de couvertures, de choses comme ça. Donc il faut aller chercher les matelas, les couvertures, ramener, regarder le courrier des gens qui lisent pas très bien, essayer de voir ce qu'il faut faire avec les courriers reçus. Je suis enseignante, donc dans mon école on a scolarisé les petites ciganes. Donc du coup le matin je vais les chercher à l'école, ils sont dans mon école, je les ramène le soir. Voilà à peu près la journée type. Puis après, quand on a du temps, on passe du temps avec les gars. Puis il y a aussi tous les gens qui sont dans d'autres lieux, qui sont en demande d'asile, des choses comme ça, avec qui on continue à avoir le lien parce qu'il y a les copains, des copains qui ont des problèmes, etc. Donc on essaie aussi de garder le contact avec eux et de passer, du coup, quand on a un peu de temps, voir tous les gars qui se sont sortis d'affaires, leurs copains qui reçoivent les papiers, etc. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup.
C'est dépasser aussi les préjugés, parce que les gens, quand ils arrivent, il y a beaucoup de préjugés envers les uns et les autres. Et c'est d'ailleurs la division, c'est comme ça aussi que... Et d'ailleurs, ça fonctionne bien quand les gens se rendent compte, que ce qu'ils pensaient, c'est pas forcément la réalité. Parce que tous les gens qui viennent des pays de l'Est ont des préjugés sur les gens qui viennent du Maghreb, et ceux qui viennent d'Afrique, c'est vice-versa. Tout le monde a des préjugés envers tout le monde. Et que, encore une fois, c'est la rencontre qui permet de dépasser ça. Et ces moments-là permettent de fait ou de faire rencontrer tout le monde, permettent de dépasser ça et après en plus de créer une solidarité comme on disait tout à l'heure, et que ça on s'aide pour défendre les lieux, on s'aide pour trouver des nouveaux lieux et tout ça quoi, pour trouver de nouvelles solutions.
C'est aussi le premier de l'an ici, c'est vraiment pour que tous les gens qui sont dans différents lieux puissent se rencontrer. Il y a un endroit ici, c'est grand, il y a de la place, donc c'est vrai que c'est pratique. Les autres lieux, c'est moins pratique. Et puis peut-être aussi que chacun voit que il y a d'autres gens dans la même situation et que il peut y avoir des choses qui se construisent ensemble, que ce soit régulier ou plus ponctuel, mais que la maison ici soit, enfin la maison est ouverte et les gars accueillent toutes les personnes qui passent. C'est qu'on soit là, qu'on soit pas là, c'est vrai que des gens proposent de passer pour emmener quelque chose ou tout ça, on a toujours dit la maison ouverte et ils sont toujours repartis en disant qu'ils ont été super bien accueillis et même si l'accueil de la France est pas à la hauteur pour eux, en tout cas eux ils sont largement à la hauteur de leur hospitalité. Puis la maison est quand même relativement isolée, donc au final, il y a les riverains qui connaissent l'existence de la maison ici, les gens qui viennent promener leurs chiens, mais il n'y a pas des voisins directs. Et au final, du coup, ça fait moins de bruit qu'une grande maison qui serait ouverte peut-être en plein centre-ville aussi.
Puis là, c'est l'hiver, si je vous parlais, du coup, les promeneurs, il y en a moins que sans doute au printemps ou l'été, quoi.
Et puis le préjugé, de toute façon, est toujours égal à l'inconnu. Le préjugé est égal à l'inconnu, à l'inculture. Ce sont des personnes, si les personnes ont des préjugés, effectivement, c'est qu'ils ne connaissent pas la situation. Donc à partir du moment où on crée du lien avec l'autre, on arrive à un échange quand même intéressant. Hein.
Il y avait quand même la rencontre avec les voisins au début, quoi. Qui était assez... je sais pas, tu parlais des préjugés. Ça, c'était assez impressionnant, de rencontrer au début les gens qui, finalement, ont carrément changé d'attitude aussi au bout de quelques jours, quoi. Et puis, après, il n'y a pas eu du tout de discours comme il y avait pu en avoir au tout début, quoi. C'était bien de se rencontrer. Du coup, c'était quelque chose qui avait été souhaité par tout le monde ici. Et du coup... qu'on avait invité
à venir rencontrer.
Ouais, parce qu'avec la propagande des esthétiques, c'est un peu ça. Les gens, ils ont, voilà, ils sont pleins de préjugés. En fait, voilà, à chaque fois qu'il ouvre, c'est d'inviter les voisins et d'expliquer vraiment ce qui se passe.
Mais du coup, il y a eu aussi, grâce à cette rencontre, il y a eu quand même une famille voisine qui a décidé d'héberger un des jeunes. Donc, et puis ensuite, il y a eu d'autres. Donc c'était vachement bien de faire ça, quoi, de les inviter.
Les gens qui ont emmené des affaires aux gars et qui maintenant disent s'il y a un problème, appelez-nous. Alors que la première rencontre, c'était pas du tout cette tonalité-là. Alors après, il y a des irréductibles, hein, comme partout, mais au final, peut-être. Voilà, au final, pas tant que ça.